un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Ils sont sans abri, à la rue ou en galère, parfois dedans, souvent dehors. Ils en sortent et replongent ou pas. Mais ce qui les relie au monde, comme les autres, ce sont souvent les réseaux sociaux. Ils y racontent leur vie, y font de la littérature ou jouent des morceaux de musique. Ils tournent de petites vidéos sur leur quotidien, essaient d'être joyeux ou disent la dure vie de ceux qui n'ont pas de logement fixe. Parfois, ils y trouvent du boulot, une vocation, un souffle, un réconfort, comme tout le monde en fait. D'autres fois, ils se révoltent, en appellent à leur communauté, comme cet hiver de 2017, où des grilles anti-SDF avaient été installées juste à l'endroit où certains se réchauffaient, rue de Meaux à Paris. Un tweet bien senti avait alors provoqué l'indignation et la mairie avait retiré illico le mobilier urbain scandaleux en rejetant la faute sur l'ancienne mandature, explique 20 minutes. Aujourd'hui donc dans les pieds sur terre, il y a d'abord Hervé sans H qui a vécu plus de 20 ans à ras du sol, comme il dit, sans jamais cesser d'écrire. Et puis Léa et sa mère, qui ont été expulsées de leur logement en juillet 2022 et sont maintenant sans domicile. Sur les réseaux sociaux, tous les deux racontent la rue et bien d'autres choses encore, par Jeanne Meyer.
Je m'appelle Hervé, sans le H, et j'ai 51 ans. J'ai eu mon premier téléphone portable en 2010. Quelqu'un qui s'en débarrassait et qui me l'a gentiment offert. Comme j'avais tendance à essayer de contacter, que ce soit les services sociaux, les administrations, ou même des amis qui étaient au loin, j'avais besoin de ce lien-là. Donc ce téléphone, ça a été une bénédiction. Ouais. Et des recharges à 5 euros, 10 euros, donc c'était très pratique. Et j'ai un petit PC portable de récup. Donc téléphoner, SMS, email et puis Twitter, c'est tout. Mon pseudo sur Twitter, c'est Croise-Patte. C'était le nom de mon chien. Et mon premier tweet de mémoire, c'était « Coucou, est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Et j'ai trouvé ça rigolo au départ. Je me suis dit « Tiens, c'est un bon défouloir ce truc. » Puis après, j'ai commencé à communiquer sur les personnes de la rue, le sans-abrisme, les précarités, les difficultés à pouvoir percevoir ces aides, les centres d'hébergement saturés. Puis tout, je relayais tous les articles en lien avec le sans-abrisme. Un tweet qui date du 22 décembre 2016. « Bonjour Anne Hidalgo, normal de fermer un gymnase à la gare de l'Est alors que les appels au 115 explosent ?» C'était par exemple le genre de tweet que je balançais pour interpeller, comme Anne Hidalgo communiquait aussi sur Twitter, autant l'interpeller pour lui dire ce qui dit fonctionne. Quoi. Une fois, on s'était fait arroser avec un copain par les mecs de la municipalité. Hein. Tu te prends un bon coup de jet douche en plein hiver alors que t'es encore dans ton duvet à moitié endormi, c'était sympa. Donc du coup c'est pas moi qui l'ai posté, ça c'est mon copain Christian, et dans l'heure qui suit un mec de la mairie est arrivé en camion avec un duvet neuf et puis des excuses. Le tweet avait cartonné, donc il fallait bouger quoi. Via les réseaux sociaux, j'avais créé un hashtag « petit boulot ». Donc moi, comme j'en avais marre de faire la manche pour survivre, je dis « si vous avez un tableau à accrocher au mur et vous avez un clou, ben moi j'ai le marteau, donc je peux venir chez vous ». Et puis après, j'ai mis mon numéro de téléphone sur mon compte Twitter, dans ma bio. Et donc, pour recevoir des coups de fil pour du travail, ça a fonctionné un peu, mais j'ai reçu aussi beaucoup d'insultes. Mon seul clochard, alcoolique, drogué... J'ai reçu des messages d'insultes en disant que j'avais dans les mains un smartphone qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes se payer. J'avais beau expliquer qu'on me l'avait donné. Hein. Je ne l'avais pas volé, je ne l'avais pas acheté, je n'avais pas les moyens. Quand on crève la dalle, on n'achète pas un téléphone, on va bouffer. Et après, j'ai commencé à expliquer la disparition des cabines téléphoniques, etc. Comment je fais pour appeler le SAMU social ou les pompiers s'il m'arrive quelque chose. Sans téléphone, à part des signaux de fumée, je ne vois pas quoi. Ça, c'est un connard pour une dizaine de personnes bienveillantes, on va dire. Donc, le connard, on le passe outre, on s'en fout. Et puis, j'ai eu une période où c'était assez frénétique, où en fait, ça m'occupait. Et j'aimais bien lire, suivre beaucoup de personnes. Avec Twitter, j'ai rencontré, ça fait quand même plus de 10 ans que je suis sur Twitter, entre 100 et 120 personnes à peu près, je pense, ouais, dans la vraie vie. Je suis né à Valenciennes et j'ai grandi dans deux structures de la DAS, ce qu'on appelle l'ASE aujourd'hui, donc à Arthres et puis ensuite à Condé-sur-Lescaut, banlieue de Valenciennes. Dans le premier foyer, l'école maternelle, primaire, était à l'intérieur du foyer, donc on sortait jamais. On était tout le temps dans la structure, H24. Le changement de foyer, le collège, c'est un collège public. Donc là, je me retrouve avec d'autres élèves qui nous regardent de haut, parce que on est des cas sociaux, et même pour certains enseignants, dans leur esprit, si on est classé, c'est parce qu'on a fait des conneries. Donc mon rapport à l'école, école primaire, j'étais très bon élève. Quand le professeur disait dictée, j'étais content. Quand on me disait rédaction, j'étais content. Ensuite, collège, en arrivant en sixième, très bon élève. Ensuite, on m'a changé de collège parce que justement, j'étais un très bon élève. Et là, tout est parti en vrille. J'ai passé mon temps à faire l'école buissonnière, à part les cours de français, d'histoire, etc. Le français, la littérature, la lecture, ça a toujours été important pour moi. Et puis après, il y a eu la découverte de Rimbaud. Donc là, ça a été vraiment une claque. Je comprenais pas tout, mais j'aimais beaucoup. J'avais 12-13 ans. Et puis après, des éducateurs qui ont vu que j'aimais lire m'ont proposé d'autres auteurs comme Kerouac. Et là, c'est parti jusqu'à la découverte de Bukowski, qui deviendra mon auteur de chevet. J'ai passé mon bac limite, mais je m'en suis sorti. Arrivé la majorité, pendant un an, j'ai galéré. Je postulais quand même à droite à gauche pour du travail, et puis je me suis inscrit dans une mission locale. Mon travail, c'était de s'occuper des jeunes de 16 à 25 ans. J'étais assimilé travailleur social. Ils m'ont proposé un temps plein, et là, j'ai pu avoir un petit appartement. Donc, disons que les choses s'arrangeaient petit à petit, tranquillement. Je travaillais, j'avais un appartement, et puis, rencontre avec celle qui aurait dû être la femme de ma vie, et puis la vie a fait que on me l'a retirée. Et puis du coup, pétage de plomb total, ça veut dire que je le vivais très mal. Au boulot, j'étais moins assidu. Puis c'est le triptyque, hein. Tu perds ta compagne, tu perds ton boulot, tu perds ton appart. Donc voilà. Je suis parti un petit peu en Belgique parce que j'y avais beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis. Donc j'ai écumé les cafés, les bars avec ma guitare pour faire de l'argent. Et puis je dormais dehors. Donc après, de temps en temps, il y a toujours un copain qui a un canapé à te prêter, mais ça dure jamais trop longtemps. Après, je suis revenu mal du pays, je suis revenu sur Valenciennes et au bout d'une semaine, j'ai craqué. Comme il n'y avait plus rien pour moi dans mon nord natal, j'ai pris le premier train et c'était pour Paris. C'était il y a 23 ans. Je débarque à Paris, gare du Nord, complètement perdu. Alors, trouver un logement en arrivant comme ça à Paris, quand on a très peu de ressources et qu'on n'a rien, pas de garant, moi j'ai pas tout ça, donc c'est super compliqué. Et Gare du Nord, on est vite chassé par les autres, qui vous voient arriver avec... moi j'avais un gros sac à dos et un deuxième petit sac. Je sentais qu'il y avait une envie de leur part de tout me piquer. Du coup, je me suis un temps promené au bord du canal Saint-Martin. Donc ça, c'est un classique, hein, pour qui vit dans la rue. Et puis après, je me suis retrouvé dans le 14e. Et puis j'y suis resté une bonne dizaine d'années. Au départ dans une tente, mais les flics avaient pour habitude de nous les confisquer. Donc après, ben non, classique, le duvet, une petite couverture, un plaid, et puis voilà. Quand on vit dans la rue, il faut choisir un endroit où on peut se sentir à l'abri. Alors déjà des autres personnes qui vivent dans la rue, et puis se mettre à l'abri de la météo aussi. Puis de toute façon, on dort très peu, on est toujours à l'affût, on est à vif, donc on dort pas longtemps, donc on peut bouger. Trouver un endroit où pouvoir faire sa toilette, pour être propre quand même un petit peu, un minimum. Et puis, bah, comme tout le monde, le café du matin ou le petit-déj. Et puis après, bah, c'est commencer à faire la manche quand il n'y a pas d'argent. Et puis, comme le temps est long, j'utilisais mon temps à lire, à écrire, donc à m'occuper. Dès que j'avais un bouquin, puis on m'en donnait beaucoup. J'ai commencé à écrire dès que j'étais en âge de savoir écrire, en fait. Comprendre les mots, etc. Pour moi, c'était pour tuer le temps, passer le temps. Je ne faisais lire à personne. Même au début, quand j'écrivais dans la rue, c'était pour moi. Il n'y a que moi qui lisais. Sinon, ben, j'ai toujours un carnet et des crayons dans mon sac. Et puis, je m'arrangeais pour me mettre à l'abri quand il pleuvait, par exemple. Quand j'avais un petit peu d'argent, ben, j'allais dans un café. Au bout sinon, ben, là où je faisais la manche, je sortais mes carnets, j'écrivais. J'écris comme ça vient, en fait. Au bout d'un moment, et je me dis, tiens, j'ai balancé des petits passages comme ça sur Twitter et voir la réaction des gens. Donc ça a plu un peu, ça a été retweeté, et donc du coup, ben, j'ai été contacté par Delphine Chaume via Twitter, directrice de la nouvelle collection à Vif, qui a répondu à un de mes tweets où je mettais un extrait. Ça s'appelait « Au ras du sol ». Et m'a posé la question de savoir si j'avais un peu plus de matière à proposer. Donc bah, j'ai osé lui donner beaucoup plus de matière et elle m'a proposé de devenir mon éditrice et d'être publiée. À l'époque, quand je vivais encore dans la rue, et on m'avait volé toutes mes affaires, dont mes carnets. Donc il a fallu que je refasse tout un travail de mémoire. Et puis j'ai rendu le manuscrit le 8 novembre 2021 pour qu'il soit publié en avril 2022. Sous le titre « Écriture carnassière ». Quasiment 9 mois d'écriture, donc c'est un beau bébé, je trouve. Secrètement, je rêvais d'être un écrivain et... Première fois où j'ai tenu le premier livre dans les mains, ça m'a fait quand même certaines émotions, quoi. C'était assez prenant. En étant publié, voilà, un premier livre, je me suis dit, c'est bon, j'ai abouti. Et c'est là qu'après, bah, en ayant rendu le manuscrit du premier livre, j'ai pu continuer dans la foulée l'écriture du second. Et donc, bah, j'ai un ami qui me prête un atelier. Comme il avait un atelier à disposition dont il n'avait plus l'utilité, il m'a proposé de le squatter, entre guillemets. Donc il y a un deuxième livre qui est sorti le 15 septembre, Morsure de nuit. Mais là, je me suis attaché à ne raconter que des souvenirs qui se déroulent la nuit, d'où le titre. Donc forcément, je pense un peu plus sombre. On m'a dit un peu plus cru, mais toujours aussi poétique. Il y avait peut-être aussi une façon, sans prétention aucune, de prouver que le premier, c'était pas un one-shot. Un SDF qui fait le buzz avec un premier livre, alors que je suis historiquement le 56e à l'avoir fait, donc c'est pas un scoop. Donc les retours sur Twitter sont plus que positifs, que ce soit de la part des lecteurs, lectrices surtout, beaucoup de lectrices, des libraires aussi. Et en attendant, ben, je travaille sur un troisième livre.
Je m'appelle Léa, j'ai 23 ans, je vis à Lorient. Je suis à la rue depuis plus d'un an. Moi, j'ai créé mon premier compte TikTok, donc le premier c'était en 2019, donc à l'époque où j'étais pas du tout à la rue. Mais après, j'en ai recréé un autre. Et c'est aussi un moyen d'exprimer, de montrer notre quotidien de personnes sans abri. On peut publier des vidéos et faire des directs, donc montrer notre quotidien, comment on fait pour se nourrir, les repas qu'on prend quand, par exemple, le soir, ou nos routines le matin. On montre que même en étant à la rue, on arrive à avoir un quotidien comme une personne lambda qui aura un appartement.
Hey, salut à tous. Donc ce soir, c'était une soupe légumes du soleil avec un surlinéa à la vanille, toujours pas les habitudes, et un thé à la fruits rouges. Donc demain, ça va être encore une journée super chargée. Sur ce, allez, je vous fais des gros bisous. Bonne nuit.
Donc ce que je poste sur TikTok, c'est les vidéos de notre quotidien. Les vidéos un petit peu comédie, sketch, les vidéos de danse aussi, parce que j'ai fait beaucoup de danse étant petite. Et les vidéos où je joue du piano, donc notamment quand je suis en public. Donc la journée, sachant qu'on n'avait pas beaucoup d'argent suite aux nuits d'hôtel, j'ai occupé ma journée avec en faisant la manche entre le dessin, le piano, la guitare. Et justement, le fait d'avoir des instruments de musique, ça attire l'attention. Mais pour moi, c'est un petit peu compliqué de jouer du piano dans la rue parce que j'ai peur du regard des gens, parce que j'entends les gens dire « Ah ouais, mais la rue, elle a un piano. » Mais ok, mais au moins, c'est mon moyen d'expression et c'est mon moyen aussi de gagner mon pain et de manger à ma faim. Donc, les instruments, je les ai achetés au fur et à mesure. Je mettais de l'argent de côté ou alors tout en début de mois, j'achetais mes instruments, que ce soit les synthétiseurs ou la guitare. Alors, ce qui fonctionnait le plus, c'est les vidéos sur le piano et les vidéos de danse. Alors, les followers actuellement, de ce que j'ai regardé ce matin, je suis à 27 300. Donc, ce qui est énorme. Des gens me reconnaissent et du coup, ils m'aident, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Le fait de communiquer avec ses abonnés, ça aide beaucoup. Et puis, il y en a, des fois, en privé, ils me parlent et ça fait du bien, quoi. D'avoir une communauté qui nous écoute, qui est là pour nous soutenir malgré le fait qu'on est dans une passe difficile. Bah pour moi, TikTok, ça me permet de vivre comme les filles de mon âge, quoi. Même s'il y a beaucoup de haters, la plupart des haters, c'est des jeunes lycéens, collégiens qui se moquent de moi. Mais pour moi, ils sont pas matures, en fait.
Hé, ma petite Christina, là, tu commences vraiment à me saouler. SDF ne veut pas dire sans revenu. D'accord, SDF, c'est quand t'as pas de domicile. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'argent. Tu as l'argent qu'on connaisse.
J'ai été beaucoup moquée sur mes dents parce que j'ai eu un scorbut en 2021. J'étais très très malade. Mais j'ai perdu mes dents, ça a déchaussé les dents. Alors, je t'aime pas, t'es moche, lave-toi. Alors, je t'aime pas, j'ai envie de vous dire, c'est pas mon problème, passez votre chemin. T'es moche, j'ai envie de dire, on peut pas plaire à tout le monde. Lave-toi, alors sachez que je me lave tous les jours, j'ai envie de dire, parce que le lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche, je suis à la piscine. Donc la douche, elle est faite quasiment tous les jours. Va te refaire les dents, j'ai envie de vous dire, payez-moi le dentiste, parce que c'est pas gratuit, c'est hyper cher. Alors, le 13 juillet 2023, 1,7 million. Ah oui, alors la vidéo sur mes règles, notamment, elle a fait beaucoup, beaucoup de vues, cette vidéo-là.
Un paquet comme ça, là, ça vaut 2,49€.
Et oui, t'es obligé de payer cher quand t'as des flux abondants. Parce que je vois, t'es un garçon, donc je comprends pas ce que c'est les règles.
Nous, les femmes, on a nos règles tous les mois. Donc, on est obligé de faire la manche pour pouvoir s'acheter des protections. Parce que être à la rue, c'est pas très hygiénique. Pour donner une ordre d'idée, je dois changer de serviette quasiment toutes les heures. Parce que c'est des règles vraiment très abondantes.
Thank you.
c'est pas tous les jours non plus que je poste, parce qu'il y a des jours où je vais être un petit peu déprimée, parce que j'ai pas envie de refléter une image négative sur mon compte TikTok vis-à-vis de la société. Je poste vraiment quand je suis positive, quand je suis heureuse, etc. Mais ça se voit à mon visage que je suis pas en forme, que je suis fatiguée, que je suis triste. Sans s'en rendre compte, on partage quand même notre côté négatif. Mais j'aime pas montrer ça en fait. J'aime pas le faire savoir. Mon géniteur m'a abandonné à l'âge de 2 ans. Il voulait pas de moi, il frappait ma mère. Donc suite à ça, aux violences conjugales que ma mère a subissait, j'ai alterné plusieurs familles d'accueil entre Kévin, Pontivy, Cléguérec, jusqu'à mes 16 ans. Donc à 16 ans, je suis retournée chez ma mère parce que j'ai été dans une famille d'accueil qui me maltraitait, elle me frappait, donc j'avais fugué. Donc je suis retournée chez ma mère, sur ma décision et sur la décision de la juge. Donc en fait, moi j'ai un autisme moyen, donc avec des troubles du comportement alimentaire et une phobie sociale. Et j'ai un autre niveau d'autisme qu'on appelle maintenant le syndrome du savant, mais autrement avant c'était appelé autisme Asperger. On m'a fait passer un test de QI qui s'est révélé à 153. Donc effectivement, j'étais pas comme la norme. En CP, j'avais multiplié de gros nombres. À 4 ans et demi, je savais lire. Donc c'est là que les profs ont commencé à douter de moi. Donc j'étais facilement moquée par les camarades de classe. Ils me traitaient d'intello, en plus j'avais des lunettes. Donc non, c'était vraiment pas simple hein, d'être en classe avec les autres. Ça empirait au collège parce que face au regard des autres, j'étais juste la grosse intello de la classe. Et suite à ça, j'ai fait une tentative de suicide en 5e. Suite au harcèlement, et après, du coup, j'ai été scolarisée à mi-temps. Donc, à partir de 14 ans, et après, complètement déscolarisée. J'ai voulu aller au lycée, faire une seconde normale, histoire d'avoir mon bac, pour pouvoir avoir un diplôme et travailler. Mais suite au harcèlement, j'ai trop peur et j'ai peur que ça recommence. Alors j'ai travaillé pendant un an en cantine scolaire, donc en fait on faisait la cuisine pour 3 cantines d'écoles différentes. Ça se passait très bien, et c'est après quand la maladie a commencé à se déclarer, la spasmophilie. Donc j'avais des crises où je me crispais, et j'avais des attaques de panique, où au point je terminais à l'hôpital. Donc je suis atteinte de diabète et de spasmophilie, donc je suis reconnue handicapée à 80%. Et ma mère, elle a plusieurs problèmes de santé moteur. Donc moi et ma mère, on vit de l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé. Et puis le 20 juillet 2022, on a été mis à la rue pour insalubrité et loyer impayé, ce qui était le cas. Donc on a été mis à la rue de force, sans possibilité de relogement, alors qu'on est handicapé. Au début, j'en ai énormément voulu à ma mère, parce que comme on ne payait pas les loyers, tout ça, qu'on a été expulsés. Donc on avait dormi dans des endroits séparés. Donc je lui fais la tête pendant plusieurs jours, mais après on dormait dans des parkings ou dans des sas de banque. C'est même la police qui nous avait conseillé de dormir au chaud là-dedans. Après, comme c'était en été, ça va, au niveau du palais des congrès, on n'avait vraiment pas froid. Après, le matin, il fait un petit peu frisqué, quand même. Sinon, l'hiver, ouais, c'était très très compliqué. Surtout qu'au mois de novembre, j'ai eu le Covid. Donc, j'étais dehors avec 42 fièvres. Donc, c'était pas terrible. Le diabète qui était à plus de 2,50 g parce qu'il y avait une infection. Déjà, de base, ma santé est fragile depuis toute petite. Et le fait d'être à la rue, on est plus souvent malade que si on avait un appartement. Donc à chaque fois, on appelait le 115, mais il n'y avait pas de place. Et du coup, en début de mois, dès qu'on avait notre AAH, on en profitait pour prendre 2 à 3 nuits d'hôtel. Mais après, ça nous a causé beaucoup de problèmes financiers parce qu'on avait les factures de téléphone à payer, on avait les frais de santé. Donc, quand j'étais à l'hôpital, après, il fallait payer les factures. Et on dormait surtout à l'hôtel, notamment quand j'étais malade et qu'il fallait que je reste un petit peu au chaud pour guérir. Moi, j'aimerais bien avoir mon bac à distance pour enfin pouvoir avoir mon métier, faire secrétaire comptable parce que pour moi c'est hyper facile les calculs. Alors, si vraiment j'arrive à obtenir mon métier, je pense que ça va m'aider à m'en sortir, à avoir un logement, reprendre une vie active comme des personnes lambda. Actuellement, avec ma mère, on est dans des anciens bureaux de France Télécom qui vont être détruits donc à la fin de l'année. Donc c'est pour ça qu'on recherche pratiquement un appartement pour s'en sortir avant l'hiver. Je continuerai mon TikTok quoi qu'il arrive parce que ça reste ma communauté, ça reste mon moyen d'expression. Et puis voilà, même s'il y a des échecs dans la vie, je partage les échecs, c'est un fait, mais je partage également les moments de bonheur.
Blue skies over my head. Give me another.
C'était Sans abri sur les réseaux, un reportage de Jeanne Meyer réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci bien sûr à Hervé et Léa, à Amy Stervinou, à Delphine Chaume, à Gilles Nadeau, à Lorde Lestrange et aux éditions Maurice Nadeau. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Zoé Coupé et notre stagiaire, c'est Hortense Martin.
Ain't got no money. Cupboards are bare. No cigarettes and the kids got nothing to wear. She walked out without a word. Now the only sound left is that morning bird singing. Blue skies over my head. Give me another reason to get out of bed. Blue skies shining my face. Give me another woman to take her place. Singing blue skies over my head. Give me another reason to get out of bed. Blue skies shining my face.